Libre, un court roman de science-fiction de Nathalie Legendre. Dès que je suis malade, je fais toujours le même cauchemar. Je suis face à une porte gigantesque qui s'ouvre telle la gueule d'un monstre géant. Je pénètre dans les entrailles sombres et fait froid. Je ne distingue pas grand-chose, juste un ray de lumière à l'étage. Je sursaute alors que je m'élève dans les airs. Mes pieds sont comme collés à une plaque de verre qui me transporte au niveau supérieur. Lorsqu'elle s'immobilise, je me retrouve devant une petite porte, précisément là d'où filtre la lueur. Aucune poignée ni serrure, rien pour ouvrir. Alors, je pose mes deux mains sur la paroi glaciale qui coulisse aussitôt en émettant un long sifflement asthmatique. Une lumière vive m'accueille en m'aveuglant, je me frotte les paupières et je distingue deux grands êtres étranges, poilus, à la tête parfaitement ronde et aux gros yeux noirs globuleux. Leur corps est entièrement recouvert d'un tissu gris et brillant, tel une seconde peau. Ils me fixent intensément. Des cris retentissent sur ma droite, je sursaute. Je tourne la tête et j'aperçois des ombres qui se battent de l'autre côté d'une baie en verre fumé. Soudain, des bras me saisissent sans ménagement. Je n'avais pas remarqué que les deux êtres étranges s'étaient approchés de moi. Tandis que l'un me force à baisser la tête, l'autre applique un drôle d'objet dans mon cou. Je me débats en vain. Une vive douleur me vrille la nuque, là, juste derrière l'oreille gauche, et je perds connaissance. Je me réveille en sueur. Amou est mon prénom, mais tout le monde m'appelle rigolote parce que je ris tout le temps. Non, en fait, pas tout le monde. Seulement les terriens, qui vivent sur notre planète et qui s'occupent de nous. Ils n'arrivent pas à nous différencier, et nos prénoms sont trop semblables pour eux, alors ils nous donnent des surnoms. Mon âge, je n'en ai aucune idée, mais selon les analyses des terriens, j'ai 10 ans. Ah oui, je suis une fille. Ça ne se voit pas tout de suite parce que notre corps ne se transforme pas comme celui des terriens. Nous sommes petits et maigres, sans poitrine ni fesses rebondies, sans poils ni cheveux. Notre peau est de couleur pourpre. Nos yeux, au globe oculaire totalement rose, ne sont que 2 fentes minuscules. Et nous ne nous parons d'aucun vêtement. Amada est ma planète. Enfin, la planète sur laquelle je suis née, parce que cette boule aride ne m'appartient pas. Il y fait toujours très chaud. Trop chaud. À perte de vue, ce n'est que sable et roches brûlantes, un paysage mordu par un soleil impitoyable. Ma mémoire est incertaine, mais il me semble que ce désert est ponctué de rares et minuscules îlots verdoyants et gorgés d'eau. Ou bien ai-je rêvé? Amou, debout! C'est ton tour d'aller chercher l'eau pour la toilette. La voix de Kadou, mon unique ami, me rappelle à la réalité. Mon corps est encore faible de la fièvre qui l'a dévoré toute la nuit. Je tente doucement de me lever, j'ai des vertiges. Je me mets à 4 pattes, je pose mes mains sur les branchages qui servent de parois, et avec un effort surhumain, je me redresse, une jambe après l'autre. Je flageole. Amou, s'impatiente Kadou, nous aimerions bien nous laver avant la dure journée qui nous attend. C'est bon, j'y vais. J'enjambe avec précaution plusieurs corps endormis et j'atteins l'entrée du dortoir. Il n'y a pas de porte. C'est inutile, car les branches sont si mal liées entre elles qu'elles présentent à plusieurs endroits des trous de la taille d'un enfant. À l'extérieur, j'inspire profondément l'air chaud, mais pas encore brûlant. Le soleil ne va pas tarder à déployer ses rayons ardents. Aussi, je ne dois pas l'embiner. La nuit est si noire qu'il est difficile de se repérer. On ne voit rien du tout. C'est même oppressant. Mais moi, j'aime bien la nuit. Je me dirige grâce aux sons divers, le vent sur le sable ou sur les brindilles sèches, ou encore le murmure de l'eau à l'approche du bassin. Je dévale le talus escarpé et sablonneux pour atteindre le bassin construit par les terriens. Ils sont vraiment très intelligents. Ils ont réussi à acheminer l'eau jusqu'ici grâce à un simple tuyau. C'est magique. Je plonge ma main droite dans la tiédeur de l'eau et de la gauche, je tâtonne à la recherche du récipient qui sert à transporter le précieux liquide. Une fois celui-ci rempli, je le soulève, surtout ne pas perdre la moindre goutte. Pour le porter jusqu'au dortoir, rien de plus simple. Nous, les Amada, avons le sommet de la tête plat. Des deux mains, je maintiens le récipient tout en escaladant le talus. L'eau tremble et tangue sans passer par-dessus bord. De retour au dortoir, je pose mon fardeau. Le récipient résonne et le clapotis de l'eau agit comme une cloche. Immédiatement, une nuée d'enfants sort du dortoir. Il y en a des joyeux, des grincheux, des grognons, des rieurs, des insouciants ou des endormis. À peine le seuil franchi, ils font leur pipi du matin, n'importe où. Cela me laisse un peu de temps pour ma toilette, car comme c'est mon tour de corvée d'eau, j'en ai la primeur. De mes deux mains, je forme une coupe, puis je puise un peu d'eau que j'étale soigneusement sur mon visage. Je frotte les doigts parfaitement joints, afin d'éviter que le liquide ne s'échappe. Certaines gouttes capricieuses parviennent parfois à se faufiler. Aussi, je reste bien penché au-dessus du récipient pour qu'elles retombent dedans et non sur le sable. Le soleil séchera ma peau. Je me redresse et cède ma place aux autres enfants qui sont maintenant près de moi. Malgré l'apparent désordre, c'est chacun son tour, du plus âgé au plus jeune. Je m'en vais vite, les bulles ne vont pas tarder. Les bulles sont les véhicules envoyés par les terriens pour nous conduire là où ils ont besoin de nous. J'aime ce moment où je suis enfermée dans un cocon transparent qui file aussi vite que le vent et me protège de la chaleur. Je m'y sens en sécurité. Je profite de cet instant pour admirer le paysage. Je survole des dunes de sable. Elles semblent respirer et onduler, telles des serpents. Puis se profilent de nombreux plateaux rocheux. Parfois, dans certains de mes rêves, je traverse à pied ce paysage brûlant à la recherche d'un peu d'eau. « Destination atteinte dans 50 secondes !» m'avertit une voix monocorde dans l'habitacle. Je saute de mon fauteuil, j'attrape le vêtement, une combinaison grise que je dois enfiler avant de sortir de la bulle, car les terriens ne veulent pas nous voir nus. Le temps de me débattre avec la fermeture et mon cœur s'emballe. Mes doigts tremblent, je n'ai encore jamais eu la chance de faire partie intégrante du petit noyau intime d'une famille. Eh oui, c'est mon premier jour de travail au sein d'une famille terrienne, sur la parcelle qu'ils se sont appropriée à presque 2 heures de vol du dortoir. La bulle atterrit et aussitôt s'ouvre la coque transparente. Une chaude brise m'enveloppe. Des parfums subtils et étrangers à mon odorat me caressent les narines. Des couleurs vives dansent devant mes yeux. La végétation qui m'entoure me grise. Un contraste saisissant avec le décor aride que je viens de survoler et qui a toujours été mon quotidien. « Rigolote est arrivée !» s'écrie une voix enfantine. Je me décide à sortir de la bulle. « Dépêche-toi, Rigolote, on t'attend tous avec impatience, tu sais !» me presse le jeune terrien. Je ne peux m'empêcher de rire devant tant de précipitations. Je cours derrière lui. Je suis émue. Je me sens soudain importante, considérée et protégée. Allez savoir pourquoi. Et là, au bout de l'allée, la maison se découpe. Une énorme bâtisse blanche au volet. Niclos. « Bonjour, Rigolote !» dit la femme aux cheveux longs qui m'ouvre les bras. « Bienvenue chez nous !» Je me dandine quelques secondes, ne sachant pas trop quelle attitude adopter. Les terriens que j'ai connus jusque-là refusaient tout contact physique. Mais pourquoi hésiter puisqu'on m'y invite ? J'avance et les bras m'en serrent brièvement, puis me repoussent. Je m'appelle Anne, voici Marc, mon mari. Elle pose une main sur la tête du jeune garçon qui est venu à ma rencontre. « Robin » présente-t-elle. « Et Sarah, » ajoute Marc en poussant doucement devant moi une petite fille aux grands yeux verts. Je reste là à sourire bêtement. « En arrivant sur cette planète, nous vous avons sauvés en vous donnant accès à l'eau. Il est normal qu'en retour vous nous aidiez, n'est-ce pas ?» J'acquiesce vivement, un sourire accroché à mon visage. « Tu es une brave petite, tu t'occuperas du jardin. Il faut soigner les fruits et les légumes, bêcher la terre. Mais prends garde, ne mange rien du potager. Non seulement ce qui y pousse ne t'appartient pas, mais en plus, tu le sais, pour toi, cette nourriture est du poison. Tu sais ce que ça veut dire ?»«
Oui, oui, » dis-je.
Anne et Marc se regardent. « Est-ce que Rigolote a le droit de venir dans ma chambre ?» demande impatiemment Robin. « Ah non, elle n'est ici que pour le jardin et ne doit surtout pas entrer dans la maison. Ce n'est pas bon pour elle. » Tandis qu'une moue attristée déforme les traits de Robin, Sarah tire sur la manche de son père. « On a le droit de jouer avec elle dehors quand même. Elle peut nous rejoindre dans le bassin. » « Non, elle aura beaucoup trop de travail. Allez, ne la retardons plus. » La maman se tourne vers moi. « Voici ton déjeuner et une gourde d'eau. Économise-la bien. Tu sais comme l'eau est précieuse sur ta planète. Mais je ne t'apprends rien. » Dans une main, je reçois 2 pilules et dans l'autre, la gourde. J'en rougis de bonheur. « Quand le soir arrivera, la bulle te ramènera là où tu vis. Tu n'as pas le droit d'aller ailleurs, c'est trop dangereux. Heureusement, nous sommes là pour vous protéger et vous dire ce qui est bon pour vous. » Oh oui, je ne les remercierai jamais assez. Dans le centre de formation à la base spatiale des terriens, nous apprenons beaucoup. Par exemple, comment extraire la poudre bleue du sol d'Amada, tant convoité par les terriens, pour ensuite travailler dans les mines ou encore la mécanique pour réparer leurs machines. Moi, j'ai appris à jardiner, à connaître les plantes. Aussi, je ne suis pas dépaysée par le travail que j'ai à effectuer. Bêcher, biner, planter, tailler, arroser, soigner. Et le jardin est immense. Les genoux dans la terre, le dos courbé, je fouille le sol. Je hume son doux parfum. « Ils sont où tes parents à toi ?» Je sursaute et me redresse. Robin me détaille avec curiosité tandis que Sarah se cache derrière lui. « Tu n'en as pas ?» demande Sarah de sa toute petite voix. « Bah, ne sois pas idiote, la sermonne son grand frère. On a tous des parents. » Il se tourne vers moi. « Ils sont morts ?» Je ne me rappelle plus. « Les enfants, venez manger !» Le frère et la sœur se mettent à courir en direction de la maison. Mais Sarah s'arrête subitement. Elle pivote et plante son regard dans le mien. « Bah alors, tu ne viens pas à table avec nous ?»« Non, » dis-je en souriant, « je ne mange pas comme vous. Ta maman m'a donné 2 gélules. » La fillette hoche la tête et rejoint sa famille attablée. Je les observe, ils parlent et rient, et engloutissent des plats fumants. Je me demande comment ils font pour manger autant. Je fouille dans la poche de ma combinaison et en ressort une des 2 pilules. Je la tourne un moment, entre le pouce et l'index, puis l'avale d'un coup. C'est ma première journée dans cette famille. Les jours passent sur le même mode. Tous les matins, Robin et Sarah attendent que je sorte de la bulle pour s'accrocher à moi et m'entraîner avec eux dans le jardin. Juste le temps de dire bonjour à leurs parents et je me mets au travail. L'eau coule en abondance. Ici aussi, elle sort toute seule d'un long tuyau. Mais d'où vient-elle? Comment les terriens ont-ils pu la trouver si facilement? Rigolote, ne gaspille pas l'eau. Je sursaute, je rêvassais. Oh pardon, madame. Te laver ne sert à rien, puisque tu vas te salir de nouveau, précise-t-elle en voyant que je me nettoie les mains. J'avais du jus de fraise sur les doigts, je ne voulais pas en avaler. Ah, dans ce cas-là, tu as bien fait. Tes prédécesseurs ont payé de leur vie leur imprudence, et nous ne voudrions pas que cela t'arrive. Mais inutile de faire couler l'eau si longtemps la prochaine fois. D'accord, madame. Quand tu auras fini, tu rempliras le bassin pour que Robin et Sarah s'amusent. Il fait une chaleur sur cette planète. La nuit, dans le dortoir, je repense à la journée écoulée. Les journées à prendre soin du jardin potager pour que ma famille ne manque pas de nourriture. Lors de mes pauses, j'observe Robin et Sarah profiter de la fraîcheur de l'eau sur leur corps dans le bassin construit à leur intention. Leur peau est fragile, les terriens ne sont pas habitués à une telle chaleur. Le bourdonnement d'un insecte attire mon attention. Il semble volter d'un corps endormi à un autre. Je soulève doucement le bras de Sanou, posé sur ma poitrine, puis la jambe de Létou. Enfin, je m'assieds sur ma couche, les genoux repliés contre mon ventre. J'ai envie de sortir, mais je n'ai pas le droit. Les terriens nous l'interdisent. Enfin, c'est pour notre sécurité, bien sûr. En fait, je suis préoccupée. Je n'ai aucune nouvelle de Kadou depuis 4 jours. Ça arrive de temps en temps que des enfants ne rentrent pas de leur travail. On ne sait pas où ils sont, ni ce qu'il advient d'eux. Si on questionne les terriens, ils répondent que ces enfants ont été envoyés ailleurs. Mais Kadou, jardinier comme moi, était mon ami. Ne plus le revoir m'attriste. Je m'allonge sur le dos, les bras derrière la tête. Je perçois un faible mouvement. Un crissement de brindilles. N'aie pas peur, c'est moi, murmure une voix. C'est Kadou. Fais-moi une place à côté de toi. Je me décale pour qu'il puisse s'installer à mes côtés. Mais où étais-tu? J'ai mangé des fruits. Et comme tu peux le constater, je ne suis pas mort. Les terriens nous mentent. Quoi? Mais tu n'avais pas le droit de faire ça. Cette nourriture ne t'appartient pas. Amou, s'il te plaît, écoute-moi. Quand je suis arrivée ce matin-là dans le jardin, c'est comme si les légumes me suppliait. Croque-nous, allez, vas-y, croque. Je n'ai pas résisté. J'ai goûté à une fraise. C'était délicieux. Puis à des tomates. Alors que je portais une feuille de salade à ma bouche, j'ai vu une ombre. C'était mon maître qui s'était planté devant moi. Il m'a ordonné de partir et m'a dit que je ne reviendrais plus, que je l'avais déçu. Lorsque je suis remontée dans la bulle, j'étais à la fois triste et terrorisée. Je savais que j'allais mourir. J'ai guetté avec angoisse la moindre réaction de mon corps. Mais je ne volais pas en direction du dortoir. J'ai entendu tout à coup un étrange grésillement. À ce moment-là, la bulle s'est mise à tanguer. J'ai été projetée contre le tableau de bord et la bulle s'est écrasée. J'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, il n'y avait que des débris autour de moi. J'avais mal partout, mais surtout à la nuque. J'ai porté ma main derrière mon oreille gauche et mes doigts ont effleuré un trou bordé d'un mélange de croûte de sang séché et d'éclats métalliques. C'est là que je l'ai vu. Sur le sol, un cylindre minuscule noirci par endroits et déchiqueté à d'autres. Il n'était pas plus grand qu'un ongle. C'était quoi, à ton avis? Ben, j'ai réfléchi et je pense que c'est un objet utilisé par les terriens pour effacer nos souvenirs. Mais pour quelle raison? Eh bien, pour mieux nous manipuler. Si nous désobéissons, ils nous tuent, ils déclenchent à distance un crash de la bulle et nous disparaissons sans laisser de traces. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir vivant. Rends-toi compte, mon cerveau n'est plus embrumé. Depuis l'accident, j'ai retrouvé des souvenirs que j'avais oubliés. Et comme il me fallait de l'eau, j'ai repensé à une oasis. J'ai marché longtemps pour l'atteindre, mais je n'étais pas inquiet. Pour la première fois depuis longtemps, je savais où j'allais. La chaleur était suffocante, mais ça m'était égal. Pourquoi ça t'était égal? Parce que tout simplement, je me sentais libre. J'aurais bien aimé voir le visage de mon ami, parce que sans aucun doute, il était malade, mais l'obscurité dans le dortoir m'en empêchait. Le lendemain, la bulle file à vive allure. Je ne regarde pas le paysage, je songe à la conversation avec Cadou et au désespoir de mon ami quand j'ai refusé de l'accompagner jusqu'à cette oasis dont il n'arrêtait pas de parler et où, paraît-il, se trouveraient mes parents et les siens. Quand les terriens ont colonisé Amada, m'a-t-il dit, la première chose qu'ils ont faite a été de séparer les enfants de leurs parents pour façonner des esclaves dociles et reconnaissants. La plupart des adultes se sont pliés devant la puissance des terriens. Les rares qui se sont rebellés ont choisi la fuite. Comment se battre contre des forces supérieures? Et ces rebelles vivent aujourd'hui dans l'oasis que je t'ai décrite, préférant mourir libres plutôt que se laisser exploiter. Ils sont tristes de nous avoir laissés, mais courir le désert pour trouver une miette de nourriture et une gorgée d'eau n'est pas une vie facile pour des enfants. Je me suis fermée à ce que mon ami avançait, refusant de le croire. Comment des êtres si gentils pourraient-ils faire une chose pareille? Des êtres qui savent faire jaillir l'eau, des êtres qui nous apprennent à vivre, des êtres qui nous donnent tant. Seulement, voilà, Kadou a semé le doute dans mon esprit. J'ai bien senti une légère boursouflure derrière mon oreille gauche. Ce cauchemar aussi que je fais à chaque fois que je suis malade. Viendrait-il de bribes de souvenirs enfouis dans ma mémoire? Non, impossible. Alors que je sors de la bulle, Robin se précipite dans mes bras. Son corps est tout mouillé. Il sort du bassin dans lequel il passe son temps pour se rafraîchir. Bien sûr, je trouve stupide de gâcher tant d'eau pour un simple plaisir. Une eau qui est si précieuse sur Ramada. Sarah est malade, m'annonce Robin. Elle a mangé trop de cerises. Mon front se plisse, je ne comprends pas. Mais les fruits ne sont pas bons pour vous non plus? Mais non, elle a juste fait une indigestion, m'explique leur maman qui nous a rejoints. Je ne connais pas ce mot et je n'ose poser de questions de peur de passer pour une idiote. Mais qu'as-tu, rigolote? Demande Anne. Tu ne souris pas, ton visage a l'air bien sombre. J'ai envie de tout lui raconter, mais je me retiens. J'ai très mal à la tête, je ne mens même pas en disant cela. Depuis les révélations de Cadou, c'est comme si mon crâne allait exploser. Alors, pour ne pas aggraver ton mal, tu travailleras à l'ombre. Il y a des tomates à cueillir. Pourquoi Cadou m'a-t-il dit que les terriens étaient nos ennemis? Anne a l'air si gentille. La fraîcheur du potager apaise ma migraine. Je travaille sans relâche, buvant régulièrement quelques gorgées d'eau à ma gourde. Les tomates attendent sagement, dans plusieurs gros paniers, tandis que j'arrache les mauvaises herbes. Les légumes sont magnifiques, charnus et d'une belle couleur. Mon regard s'y attarde et le visage de Cadou se superpose aux tomates d'un rouge éclatant. Non, non, je ne dois pas y goûter. Mais si ce qu'il m'avait raconté était vrai? Je grince des dents et plonge mes mains dans la terre. Je gratte le sol avec mon râteau, mais mon regard se pose encore sur les tomates. Je revois alors la petite Sarah croquée à pleines dents dans une grosse tomate bien rouge et encore tiédie par le soleil. Ma main s'approche du panier. Je jette un coup d'œil à droite, à gauche, derrière moi. Personne. Je prends une tomate. Oh, qu'elle sent bon! Et je croque. Je suis étonnée par la saveur sucrée. Sous mes dents, la chair ferme éclate, libérant les pépins. C'est frais et doux sur la langue, un vrai délice. Et tout d'un coup, j'entends « Maman! Maman! Rigolote mange les fruits !» hurle Robin. Mon exquise découverte a été de courte durée. Marc m'a attrapé par le bras et m'a jeté sans ménagement dans la bulle, tandis qu'Anne me fixait les lèvres pincées. Je n'ai plus peur d'être malade ou de mourir à cause des fruits, mais je suis triste d'avoir déçu ma famille d'accueil et de ne plus jamais revoir les enfants. Je m'en veux terriblement. Dans la bulle, tandis que j'ôte lentement ma combinaison, un horrible grésillement agace mes tympans. Ma tête heurte violemment le plancher. Une terrible douleur derrière l'oreille gauche m'arrache un cri. La bulle oscille. Impact. Une violente secousse suivie d'un craquement sinistre. Je suis projeté hors de la bulle. Le sable amortit ma chute. Stupéfaite, je vois la bulle s'embraser près de moi. Je m'assieds lentement. J'ai mal à la hanche et à l'épaule droite, mais je suis toujours en vie. Je tape derrière mon oreille gauche, mes doigts effleurent une boursouflure anormale, d'où suinte du sang. Quelque chose dépasse. De mes ongles, je m'en saisis et tire d'un coup sec. Un minuscule cylindre, noirci et déchiqueté, au creux de la main. Je le jette le plus loin possible. Et là, je n'ai plus le cerveau embrumé. Cadou avait raison. Les terriens mentent. Je me redresse et regarde le paysage autour de moi. Je sais où je dois aller. Une oasis à plusieurs heures de marche. Une oasis que je connais depuis toute petite. Il me reste de l'eau dans ma gourde. Il va faire nuit. Mais j'aime la nuit. Les sons me guideront. Et Cadou avait raison. Je suis libre.